Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir.
Toucher.
Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Amélie et Marion sont sœurs. Un jour, elles font un pari fou. Relier, pratiquement sans aucun budget, la Patagonie en Amérique du Sud et l'Alaska en Amérique du Nord. 80 000 km où tout n'est qu'improvisation. Elles doivent se débrouiller, faire du stop pour avancer et frapper aux portes pour trouver où dormir. Au cours de ces 2 années sur la route, leur vision du monde va changer et les stéréotypes tomber. Du pauvre paysan au riche pilote d'avion, de la jeune femme au couple de retraités, de l'aborigène au citadin, elles rencontrent une fascinante galerie de personnages. On leur donne des vêtements lorsqu'elles ont froid, de la nourriture quand elles ont faim, un toit quand elles en ont besoin. Partout où elles vont, leur plus belle aventure, c'est la découverte des autres et de leur humanité. Jusqu'au bout de la Terre. Mais que s'est-il passé? Par quoi commencer? Je sais pas. Bah tiens, le bout de la Terre, c'est quoi? Pourquoi? Comment? Raconte-moi tout.
En fait, le bout de la Terre, c'est le bout de la route. Donc on a décidé de faire Ushuaia, Alaska. Donc d'aller du bout de la route au bout de la route. Et c'est vrai que le continent américain, c'est là où on peut le faire le plus de route en latitude d'une seule traite.
Bonjour Amélie, bonjour Marion. Donc j'ai devant moi un bouquin. Ça s'appelle donc « Jusqu'au bout de la Terre ». Amélie et Marion Lorrain, deux sœurs aux Amériques, 80 000 km en stop. Ça, c'est ce que j'arrive à lire sur la couverture. Et derrière, je vois quoi? Je vois donc deux nanas qui sont là, sœurs, et qui ont fait le choix de partir faire 80 000 km. Mais c'est énorme.
Ça n'a pas l'air, parce qu'un vol d'oiseau doit avoir moins de 20 000. Mais on a fait énormément de détours. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé porter par l'improvisation et qu'on ne savait pas du tout comment on allait le faire. En tout cas, on s'est laissé l'opportunité d'aller voir et d'improviser. Et donc, toutes ces improvisations, ça a fait beaucoup de détours et beaucoup de kilomètres. Mais on avait la liberté et le temps de faire tous ces kilomètres.
Bon, l'idée, c'est de partir avec vous en voyage, mais avant de partir, je vais revenir en France avant le départ. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Qui a eu cette idée un peu folle de se dire « bon, allez, zou, on lâche tout, on part ». D'ailleurs, combien de temps vous êtes parti?
On est parti 2 ans, et l'idée, c'est pas en France qu'on l'a eu, c'était quand on était en Australie lors d'un précédent voyage, et où on s'est dit « c'est tellement beau d'être toutes les deux, deux sœurs, on s'entendait pas forcément très bien avant, et on a découvert en Australie qu'on était très complémentaires, et on s'est dit « on va faire plus, on va voyager plus longtemps, on va pousser l'expérience ». On a décidé de faire ce trajet-là, et on est parti 4 ans plus tard, le temps d'économiser un petit peu. Même si le voyage nous a pas coûté énormément, mais vu qu'on a tout fait en stop, qu'on dormait au maximum chez les gens, qu'on se débrouillait, c'était très système D pour tout. Donc c'est pas un gros budget, mais quand même on devait passer du temps pour économiser un peu. Et voilà, l'idée est née et puis après on l'a réalisée.
Une question que j'aime bien poser, c'est le voyage. Qu'est-ce que c'est que pour vous le voyage?
Voyage, c'est pour moi, c'est la découverte. C'est faut être curieux. Curieux, bien sûr, on va voir des lieux, mais on va surtout rencontrer des gens. Et c'est être ouvert aux autres et prendre tout ce qu'on peut de connaissances de l'autre. Et c'est ça, c'est la curiosité, mais c'est pas du tout un vilain défaut, malgré ce qu'on dit.
Et pour toi, le voyage, Marion?
Oui, c'est aussi la découverte. On est parti pour connaître des pays, mais surtout, comme Amélie l'a dit, surtout les populations. Et c'est vrai que le stop, on l'a appris pendant le voyage et c'était pas du tout prévu. Le stop a vraiment façonné notre voyage et nous a permis de voyager avec les gens et non pas de rencontrer les locaux à des points intermédiaires. On était vraiment tout le temps avec eux, dans les voitures, chez les gens, pour partager leur quotidien. Et c'est ça qui a vraiment rendu notre voyage intéressant.
Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à voyager? C'est quelque chose qui était dans vos gènes? C'est quelque chose, c'est une histoire, une aventure familiale? Vos parents vous ont déjà traîné sur la route enfant? Comment vous en êtes?
Alors, traîné sur la route, pas vraiment. C'est pas vraiment des routards, mais on a fait quelques voyages assez sympas quand on était enfant. Nos parents nous ont un petit peu poussé à aller voir ailleurs, mais pas forcément de cette façon-là. Et surtout pas en stop.
Comment c'est venu l'idée de partir entre sœurs?
Déjà, on a rencontré assez peu de gens qui voyagent entre frères et sœurs. Alors, je sais pas pour quelle raison, mais nous, on a trouvé qu'on était très complémentaires. Et même si c'était pas toujours facile, parce que l'entente entre sœurs, c'est comme l'entente entre deux personnes, en fait. C'était juste par moments, c'était assez difficile. Mais ça faisait partie du challenge. On voulait aussi y arriver ensemble. Et vu que dans le voyage, on avait découvert qu'on s'entendait vraiment bien et qu'on était complémentaires, ça, c'était une évidence.
Oui, parce que le premier voyage, c'était entre sœurs en Australie. Ouais. Et c'est là où vous avez dessiné votre projet de repartir ensemble, entre sœurs. Mais c'est fort quand même d'arriver à se libérer du temps en même temps pour pouvoir réaliser ce projet.
Oui, on décide, on part. Voilà, on prend les choses en main. On essaie de résilier un peu toutes les choses qu'on a, le téléphone, toutes les choses qu'on a en France. Puis on arrête le travail, on met l'appartement en location, je donne mon chat à mes parents, voilà, toutes ces choses-là. Et après, on est prêts à partir et on prévoit de le faire ensemble. Donc on se met les disponibles en même temps. Ouais.
Donc c'est toute une question de moyens qu'on se donne pour pouvoir réaliser ses projets et ses rêves.
C'est ça, c'est les moyens qu'on se donne, chacun ses priorités. Nous, on voulait partir, c'est ça notre priorité. Il y en a qui se mettent des freins parce que leur priorité est autre. Nous, c'était notre priorité, donc on n'avait pas de frein. On arrête le travail, et puis on part, on économise et on prend un billet d'avion, et voilà, et puis on y va. C'était ça notre but, et puis on est parti 2 ans quand même, c'est assez long, donc on laisse pas tout tomber, mais on résilie plein de choses, et puis c'est parti.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre. Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
Donc 2 ans en Amérique du Sud, est-ce que vous aviez déjà avant votre départ le projet de faire un livre? Ou est-ce que c'est venu sur la route? Comment ça s'est passé cette aventure? Parce que c'est tout un projet aussi, toute une aventure d'écrire un livre de 416 pages.
Ouais, alors c'était pas du tout un projet au départ. On est parti avec, on n'avait pas de sponsor, mais on était invité de la rédaction sur la plateforme du Nouvel Observateur, enfin du Nouvel Obs à l'époque. Et donc on était entre guillemets dans l'obligation de rédiger quelque chose, de rédiger ce blog toutes les semaines. Ce qui au départ était assez contraignant parce qu'on n'avait jamais écrit. Et en fait, c'est très très vite devenu hyper intéressant et limite essentiel à notre voyage. C'est-à-dire qu'on se posait chaque semaine pour réfléchir un petit peu à ce qu'on faisait, pour le poser à l'écrit et pour le raconter à chaud. Quand on est revenu, on s'est dit que c'était quand même dommage de rien faire avec tous ces écrits. Et quand on a relu notre blog, on s'est rendu compte qu'il était quand même assez indigeste, trop descriptif et qu'il n'était pas assez représentatif de notre voyage et de nous-mêmes. Donc on l'a retransformé en quelque chose de beaucoup plus personnel, où on a intégré des histoires qu'on n'a pas osé intégrer quand on était sur la plateforme du Nouvel Obs. Et donc là, c'est vraiment un récit beaucoup plus personnel qui nous représente beaucoup plus. Et c'est vraiment un livre qu'on a écrit pour partager notre expérience avec les gens et pour donner une expérience positive d'un voyage à l'arrache entre filles. Parce que c'est vrai que souvent on entend des histoires dramatiques qui nous reviennent dans les oreilles en France, ce qui peut-être empêche quelques-unes de partir. Et nous, on voulait vraiment transmettre une expérience hyper positive. Bon, on a eu des petits soucis comme dans tous les voyages de 2 ans, j'imagine. Mais voilà, l'expérience globale est quand même hyper positive et c'est ça qu'on voulait transmettre.
Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à poster, à publier sur la plateforme du Nouvel Observateur?
En fait, on cherchait des sponsors.
C'était... Avant le départ, là, hein, c'est
ouais.
Bien ça.
Ouais, avant le départ, parce qu'on n'avait pas, on pensait qu'on n'avait pas assez de sous. En fait, on s'est très bien débrouillé avec ce qu'on avait. On cherchait des sponsors, et c'est vrai que c'était une période de crise. Donc, tout le monde nous a dit c'est très bien ce que vous faites, mais on n'a pas d'argent pour vous. Et la seule personne qui, enfin, le seul organisme qui nous a permis de, ils nous ont pas sponsorisé financièrement, mais ils nous ont permis de, comme une vitrine, de pouvoir raconter notre histoire, c'est le Nouvel Obs.
Ah ouais, donc c'est pas mal. C'était un bon moyen de pouvoir mettre un pied dans l'écriture et puis de concrétiser un vrai projet d'écriture 2 ans plus tard, quoi.
Bah, si on n'avait pas écrit au fur et à mesure, et c'est le fait d'écrire pour le Nouvel Obs et d'être deux aussi, donc se motiver l'une l'autre, vraiment de tenir ce blog jusqu'au bout, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de voyageurs qui commencent un blog et qui ne finissent pas forcément, parce qu'il faut une certaine rigueur. Puis des fois, on dit, oh, je vais pas passer mon temps à écrire, je vais plutôt vivre mon truc. Et c'était aussi salutaire, des fois, de faire une pause dans le voyage, de réfléchir, d'écrire, et c'était important pour nous de le partager. Ouais.
C'était quoi le deal avec le Nouvel Obs? Il y avait un échange? Aucun. Simplement publier, ils publiaient ce que vous partagiez.
Oui, ouais, ouais. Enfin, nous, on le publiait nous-mêmes. C'était un blog qu'on avait carte blanche et il n'y a pas de deal, il n'y a pas d'échange. C'est juste ouverte, une fenêtre.
Et donc, du coup, il n'y a pas un côté contraignant parce qu'il faut effectivement avoir un rythme, une régularité dans ce que tu veux écrire, trouver une connexion, aller sur Internet, avoir un ordinateur portable, du coup, quand tu voyages.
Oui, alors, de toute façon, on avait déjà prévu de prendre un ordinateur portable parce qu'Amélie est photographe, donc elle prend beaucoup, beaucoup de photos et on avait besoin de les stocker. Donc, l'ordi, c'était assez important. Enfin, on l'a utilisé aussi pour écrire, effectivement. C'est contraignant d'écrire un blog toutes les semaines pendant 2 ans, mais c'est aussi important de pouvoir garder une trace. C'est vrai que quand on veut avoir des souvenirs plus tard et quand on veut surtout écrire un livre par la suite, tous les noms des gens qu'on a rencontrés, tous les noms des endroits, tout est exact. Si on n'avait pas écrit ce blog et si on n'avait pas pris le temps de se poser pour l'écrire et pour réfléchir aussi à notre voyage et est-ce que ça a un sens, est-ce qu'on est contente de ce qu'on fait, est-ce qu'on est épanoui dans notre voyage, c'est quand même important de le mettre noir sur blanc.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
L'émission radio pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Amélie et Marion, donc voilà, le livre s'appelle « Jusqu'au bout de la Terre ». On va partir avec vous maintenant, partager quelques journées sur les terres d'Amérique du Sud. Donc une journée type, qui c'est qui a envie de nous raconter une journée? Qu'est-ce que vous faites? Comment se déroule la journée de deux voyageuses en autostop?
Ben, on se réveille, qu'on est dormi dans notre tente, dans une station de police, chez des gens, dans un camion ou dans une station service, ou je sais pas, là où on a trouvé où dormir. On se réveille, généralement moi la première, et je suis la dernière prête. Quand on est prête, on va au bord de la route, on pose nos sacs et puis on lève le pouce. Alors c'est, des fois ça dure 5 minutes, des fois ça dure 5 heures. Une demi-heure, c'est déjà beaucoup, souvent c'était beaucoup plus rapide. Et puis après on attend, on sourit, on tend le pouce, on lève le bras pour faire coucou et puis on se montre dynamique et sympa. Nous on faisait pas de panneau de direction parce que les gens s'ils y vont pas, ils disent « Ah bah j'y vais pas, je vais que... » Si, pas plus loin, mais quelquefois, même vers 5 km, ça nous allait très bien. Et on multipliait les véhicules comme ça, mais peu importe, parce que multiplier les véhicules, c'est aussi multiplier les rencontres. Et même si au début, on était très impatientes, surtout moi, finalement, cette attente, c'était une bonne expérience d'être au bord de la route à attendre. On se trouvait des activités, on se faisait parfois manger, on recousait notre sac ou nos pantalons, nos chaussettes, peu importe. Au fur et à mesure, cette attente, elle faisait vraiment partie du voyage et... voilà. Après, on montait avec quelqu'un et puis il n'y a pas de journée type. Alors là, c'est complètement...
aucun plan, quoi. C'est vraiment, on se laisse porter par la magie des rencontres.
C'est ça. Si quelqu'un nous propose, juste nous emmène quelque part, bah, on verra avec le véhicule suivant. Ça peut être un camion, ça peut être un cheval, on ne sait pas. On a pris vélo, moto, cheval, quad, un jet ski, des voitures, ça va de la Jaguar à limousine jusqu'à des gros camions ou des véhicules où on voit le plancher, on voit la route à travers le plancher. Et selon les gens qui nous prennent en stop, bah, les opportunités sont multiples. Des fois, on nous dit, tiens, on passe à côté d'un parc national. Pourtant, je vis dans la région, je passe souvent, mais je ne l'ai jamais visité. Ça vous dit qu'on y aille ensemble? Ou parfois, ils nous disent, vu l'heure qu'il est, peut-être que vous voudriez dormir à la maison.
Mais il y avait un but d'aller du point A au point B ou simplement non, vraiment se livrer à la route, aux rencontres et à ce qui allait se passer sur le chemin?
Bah effectivement, il y a un point A, B et C, c'est Rio, Ushuaia, Alaska, et entre les deux, on n'avait pas du tout d'itinéraire et très franchement, on s'en fichait un petit peu de l'itinéraire. Bon, effectivement, il y a des trucs qu'on veut voir, il y a des grands parcs nationaux ou des villes touristiques très connues pour de bonnes raisons dans lesquelles on aimerait bien passer, mais il y en a aussi qu'on a zappé parce que le conducteur nous a dit moi j'habite à 200 bornes à l'ouest et nous on allait à 50 bornes à l'est, et puis il était sympa, il nous invitait à dormir chez lui, il nous a dit que sa famille était cool et qu'il y avait un repas de famille ce week-end et qu'il aimerait bien qu'on soit là, et ben, du coup on allait avec lui, et puis ça nous est arrivé de zapper des trucs qu'on voulait voir pour être avec les gens, donc il n'y avait rien de prévu, tout était, comme disait Amélie tout à l'heure, quand on se réveille le matin, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Absolument aucune idée, et à vrai dire, on s'en fout. On sait que ça va bien se terminer, on sait qu'on va rencontrer des bonnes personnes, et on sait que s'il nous arrive un souci, on va rebondir, et dans tous les cas, on va avancer un petit peu, on va aller peut-être dans la mauvaise direction pendant quelques jours, et puis après, on va rebifurquer vers la bonne route, mais c'est pas très grave, on a du temps, on a de l'espace... Ouais, c'est vraiment un luxe de pouvoir prendre son temps et puis de pas avoir d'itinéraire, quoi.
C'est vrai que le temps, vous l'aviez 2 ans. Comment vous aviez calculé ça? Ou c'était pas calculé, c'était juste on prend la route et on voit comment ça se passe et combien de temps ça dure?
C'était pas calculé, non. On pensait partir plus proche d'un an et demi. Et puis en fait, dès le départ, on mettait beaucoup plus de temps que prévu parce que c'est les rencontres avec les gens qui finalement nous donnaient envie de rester à un endroit ou à un autre. On faisait beaucoup de détours. Nous, on n'avait pas pensé faire autant de détours. Donc forcément, ça prend plus de temps. Finalement, ça a duré 2 ans. Et il y avait une contrainte, une semaine. Contrainte, c'était qu'on voulait arriver en Alaska en été. parce qu'arriver en hiver, c'est aussi, il faut être équipé, il fait moins 40 degrés, à certains endroits, il fait moins 40. Si on n'a pas une grosse doudoune et qu'on n'est pas super équipé, il vaut mieux pas tenter l'expérience, je pense. Donc, on avait vraiment envie, d'y arriver en été. Donc, ça contraignait un peu le parcours, mais on avait la liberté d'aller où on voulait, de prendre le temps.
Et en termes de mouvement, c'était quoi? Donc tous les jours, tous les deux jours, il y avait vraiment des moments où vous preniez le temps de vous poser, rester en place dans une famille que vous aviez rencontrée? Ou est-ce qu'il y avait quand même toujours cette notion de mouvement et d'avancée?
C'était au feeling. Si on se sentait bien à un endroit, ça nous arrivait de passer pour 5 minutes parce que une personne nous a pris en stop et nous a dit si vous voulez boire un verre à la maison, je vous monte chez moi, je vous présente à ma femme et mon chien, je sais pas. Et on est resté 5 jours parce que on se sentait bien, parce qu'on était tellement bien accueillis, que l'endroit est super et que pourquoi continuer à avancer? Là, on est bien. Voilà. Et puis on reprend la route parce que on sent que c'est le moment et on n'est jamais resté très très longtemps au même endroit. Le maximum c'était 3 semaines et encore parce qu'on a eu des petits soucis, on essayait d'acheter un véhicule puis on n'a pas réussi, on s'est fait agresser aussi à Buenos Aires, un couteau sous la gorge pour donner mon appareil photo. Tout ça a fait que on a resté 3 semaines au même endroit, mais sinon c'était des fois un jour, une nuit on repart, parfois une semaine, c'était au feeling.
Les agressions à Buenos Aires, c'est fréquent, non? J'entends souvent ça.
On entend ça parce qu'on parle beaucoup des mauvaises choses, mais il y a aussi beaucoup de belles choses. Et nous, on raconte, certes, on s'est fait agresser une fois. Certes, il y a eu des moments où on a ressenti du danger pas mal de fois. Nous, on veut raconter des belles histoires et on entend plus les mauvaises histoires. Il y a des agressions, mais il y a encore plus de belles histoires dont on parle moins. Et oui, on s'est fait agresser, comme toutes les grandes villes latino-américaines, et même toutes les grandes villes, ont un quartier qui craint, où on peut se faire agresser partout, même près de chez nous. Donc, c'est pas d'aller jusqu'à Buenos Aires qui est dangereux.
On s'intéressait à l'itinéraire donc jusqu'au bout de la terre avec Marion et Amélie là sur leur stand où vous faites des dédicaces sur le festival de Curieux Voyageurs à Saint-Étienne. L'itinéraire, on part d'où, on va où? Parce que 80 000 km, il faut les faire quand même.
On arrive à Rio déjà. En fait, la route c'était Ushuaia, Alaska, mais c'est vrai que on a rajouté un petit peu le nord de la Patagonie, l'Uruguay et le sud du Brésil jusqu'à Rio. Donc on est arrivé à Rio et là il y avait zéro plan de route, quoi. On savait pas du tout ce qu'on allait faire et c'est grâce à des rencontres qu'on a commencé à se dire tiens, on va aller dans le Pantanal, qui est une région très humide du Brésil, parce qu'on a fait des rencontres et qu'on a décidé d'aller voir là-bas. Et en fait l'itinéraire c'était que ça, c'était que des zigzags tout le temps, des bouts de route un peu, on retourne un peu en arrière, on retourne un peu au sud, on revient. C'était pas du tout planifié, c'était vraiment en fonction des rencontres. Très franchement, on referait le même voyage, on n'aurait jamais le même itinéraire parce que les gens nous amèneraient autre part, même si on avait les mêmes points de, les mêmes petits intermédiaires, arrêts intermédiaires entre guillemets, on n'aurait jamais fait le même voyage parce que c'est les gens qui nous dirigent. D'ailleurs, il y a un chapitre autant nous emportent les gens, c'est les gens qui décident de notre destination en quelque sorte.
Avec quand même à un moment donné l'idée d'acheter un véhicule, tu disais.
Oui, parce que quand on voyageait en Australie, on avait acheté un véhicule pour faire le tour de l'Australie en voiture. Et on s'était dit que on pouvait faire la même chose sur le continent américain. Et on a essayé, on n'a pas réussi, ils ont perdu les papiers, c'était compliqué, bref. Et on pense que c'était plutôt une bonne chose de ne pas acheter ce véhicule parce que c'est beaucoup mieux de le faire en stop.
Donc le véhicule, c'était au début du voyage, l'idée?
Oui, au tout début, on a essayé un peu à Rio. Après, on a commencé en stop déjà au Brésil. Et arrivé en Argentine, on s'est dit là on a fait assez de stop. Il y a beaucoup de moments où on a douté, on pensait arrêter le stop, voyager autrement. Et puis on avançait en fait, on était sûr qu'on continuait comme ça. Mais il y a eu un moment, oui, en Argentine, où on a voulu acheter un combi Volkswagen un peu hippie, trop beau, était bleu, il était beau. Et puis ça a pas marché et on est parti, on a continué en stop et c'est la meilleure des choses qu'on ait faites, de continuer de cette manière.
Ouais, parce qu'il y a un côté rassurant et sécurisant d'avoir son propre véhicule. Tu peux y stocker tes affaires, tu peux dormir dedans.
C'est une petite maison qu'on emporte avec soi, son petit cocon. Là, c'est vrai qu'on est juste avec notre sac et on rentre dans le cocon des gens. C'est un autre voyage. Ça aurait été complètement différent. Marion, tu veux dire quelque chose?
Moi, je trouve ça un côté flippant d'avoir une voiture. Donc, effectivement, c'est confortable. Et on l'a fait en Australie et c'était super. Et on peut mettre tous nos trucs. On peut même acheter des souvenirs. Nous, on est revenus avec zéro souvenir parce qu'on pouvait pas. Mais c'est un côté flippant dans le sens où t'as tout dans ta voiture. Tout est là. Si jamais tu te la fais voler, tu perds tout. Nous, c'est vrai qu'on avait aussi cette chose-là avec notre sac. Mais on faisait quand même super gaffe. On l'avait toujours avec nous. Enfin, voilà. Le fait de tout mettre dans une voiture, c'est vrai que ça, pour moi, c'est pas très rassurant. Et c'est très confortable et ça rend ton voyage peut-être libre d'une autre façon parce que tu vas exactement où tu veux. Mais
Au moins, on n'a pas eu d'ennui mécanique.
Je disais, au moins, on n'a pas eu d'ennui mécanique.
Ça, c'est c'est sûr, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un risque aussi d'avoir ton van et te le faire forcer et perdre tes affaires. Là, vous étiez donc seul avec votre sac. C'est lourd à porter un sac, non, sur 2 ans?
Oui, surtout qu'on n'a pas fait. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est des nanas, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait léger dans la liste. On a pris beaucoup trop de choses. On a emmené des trucs complètement inutiles. Mais on a très vite laissé des choses en chemin. Et puis il y a aussi le fait les saisons, les endroits qu'on a traversés. Des fois, il fait très froid en Patagonie. Il y a des endroits où il fait vraiment froid. Au Grand Canyon, il y avait des températures négatives la nuit. On est arrivé en short. Au début, on était très mal équipés et rapidement, on s'est dit que il y avait des choses qui étaient vraiment nécessaires, comme le matos de camping qu'on n'avait même pas amené au départ. Donc on s'en est procuré là-bas. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il s'est quand même considérablement allégé.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre.
Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
Le bouquin. Allez, je m'intéressais au livre. Comment est-ce qu'on trouve un éditeur? Comment ça s'est passé, cette aventure-là? Comment vous êtes donc revenu en France? Il fallait maintenant commencer ce travail d'écriture.
Une fois qu'on a eu une version du texte qui nous satisfaisait à peu près, on a fait un dossier où on expliquait ce qu'on avait fait, des petits extraits du texte et quelques photos, quelques mots sur nous. Et on l'a envoyé à plusieurs éditeurs, certains avec le texte, parfois en PDF, parfois imprimé, selon ce que demandait l'éditeur. On a ciblé les éditeurs qui nous correspondaient, Voyage, qui avait une collection où qui pouvait être intéressé par notre récit. On a eu de la chance de trouver un éditeur intéressé. Après,
Et le lecteur, qu'est-ce qu'il va trouver le lecteur en ouvrant les pages? Qui c'est qui a envie de me raconter un petit peu le contenu du bouquin?
C'est un témoignage, donc c'est vraiment notre vie quotidienne sur la route. On parle beaucoup de l'apprentissage du voyage, parce que c'est vrai que on avait toutes les deux fait un petit peu de stop, mais c'était très marginal. On n'avait jamais fait de grands voyages comme ça en stop, et on n'était jamais parti 2 ans non plus. Donc on a appris à être patiente, on a appris à se comporter en bord de route, on a appris à se comporter avec les conducteurs qui nous prenaient en stop, on a compris pourquoi ils nous prenaient en stop et qu'est-ce qu'ils cherchaient vraiment en prenant des gens en stop, parce que c'est bizarre de rendre des services comme ça à des complets inconnus. Et puis évidemment on décrit les lieux, les gens, et c'est vraiment une aventure humaine en fait. C'est juste, c'était vraiment notre rencontre avec les gens au jour le jour et comment on s'est démerdé avec toutes les galères qu'on a eues. Et puis c'est vrai qu'on dit à un moment dans le livre, nous on a découvert qu'on aime bien galérer, parce que de booker un hôtel et de booker un bus pour aller d'un point A à un point B, c'est pas drôle finalement. Enfin, en tout cas nous, ça nous semble pas assez marrant. Donc c'est vrai que notre façon de voyager, on avait tous les jours un tas de petits problèmes à résoudre qui ont rendu notre voyage plus intéressant. Et on a trouvé des alternatives à chaque fois. Et on en parle beaucoup de comment faire une chose. Il y a 1000 façons de faire les choses. Et nous, on a découvert plein d'autres manières de le faire. Et je suis sûre que d'autres voyageurs le voyagent différemment et qu'ils ont trouvé leur manière de faire. Et voilà, il n'y a pas une façon de voyager. Il y a plein de façons de voyager. Et chacun doit trouver la sienne, quoi.
Allez, un moment de galère et un moment de grâce. Qui c'est qui fait le moment de grâce? Qui c'est qui fait le moment de galère?
Pour en choisir une qui était assez exceptionnelle, on cherchait où dormir. Je vais voir un dive shop, c'est un centre de plongée, et on leur demande si on peut dormir sur leur ponton en échange de langoustes qu'on avait eues d'un pêcheur qu'on avait aidé. Et ils s'en fichent des langoustes parce qu'on est au Belize et que c'est comme du poulet en fait, c'est pas exceptionnel pour eux. Mais ils ont apprécié la démarche et du coup ils voulaient faire ça au barbecue le soir avec toute l'équipe, et on a quand même par notre approche, en se mettant un peu en difficulté sans aller à l'hôtel et en cherchant une autre manière une autre approche, il nous a proposé de dormir sur son bateau. Puis son bateau, c'était un bateau de plongée, donc on a appris la plongée, on a été sur des spots exceptionnels comme le Blue Hole. C'était une énorme surprise et un moment de grâce, comme tu l'appelles.
Donc juste en ayant une intention de partage avec quelqu'un, tu t'es retrouvé sur un bateau à faire des choses complètement improbables, pas du tout planifiées.
Oui, pendant 10 jours en plus, on pensait rester, on savait pas, 2 jours, peut-être 3, peut-être 1 si le lendemain ils allaient nous chasser, on aurait trouvé peut-être autre chose. Mais là, pendant 10 jours, on a appris à plonger, on a donné un coup de main en échange, pas seulement les langoustes qu'on avait apportées, mais moi je faisais des photos, comme je suis photographe, je faisais des photos des expéditions, et Marion a coupé des fruits pour les clients le matin, ou a préparé le matériel de plongée. Enfin, voilà, on aidait un peu quand même pendant 10 jours à la vie avec le staff, et c'est une superbe expérience.
Vous avez souvent essayé de faire ça, du troc, hein, troquer des langoustes contre autre chose, ou faire du troc d'une manière, enfin créer l'échange?
Ouais, parce qu'on n'a pas travaillé pour gagner de l'argent, mais sinon c'était du troc, ou si on n'appelle pas ça du troc, juste t'es sympa avec moi, je suis sympa avec toi, tu m'aides, tu me donnes un endroit pour dormir, peut-être même un repas. Ben si t'as besoin qu'on passe un coup de balai chez toi, ou même qu'on répare quelque chose, enfin ça dépend de nos compétences, tout ce qu'on peut faire, on le fait volontiers, c'est de l'entraide, et quelquefois vraiment du troc, où on a négocié avec un hôtel, est-ce qu'on peut dormir là, et en échange, voilà, on file un coup de main, c'est du vrai troc, mais parfois c'était juste de l'entraide, on file un coup de main, avec plaisir. Voilà.
Proportionnellement, combien de nuits en hôtel, combien de nuits chez l'habitant, et combien de nuits dans une tente?
On a passé une centaine de nuits en tente. C'est pas vraiment des hôtels, plutôt des auberges de jeunesse où on dormait. Une dizaine de nuits, peut-être plus, 15, enfin sur 2 ans, ouais, un peu par-ci, un peu par-là. Mais plus le voyage avançait et moins on allait, enfin l'auberge de jeunesse devenait plus une option. Ou alors, si c'était pour aller négocier avec le gérant, si on pouvait dormir gratos en échange de, je sais pas quel coup de main on pouvait faire. Mais sinon, aller payer et dormir dans une auberge de jeunesse, ça devenait de moins en moins une option pour nous. Fallait trouver une autre manière de dormir.
Mais pourquoi, dans l'idée d'économiser de l'argent, ou non, c'est plus profond que ça?
Bah, c'est la même chose que pour le stop. Bien sûr, le stop et dormir chez les gens, c'est gratuit. Mais c'est surtout un moyen de rencontrer les gens, de rentrer avec eux dans leur intimité un peu, et de connaître les gens. On apprenait la cuisine, on rentrait dans les cuisines des gens qui nous accueillaient. On apprenait plus la vie locale que si on allait à l'hôtel. Donc il y a certes une partie économique, voilà, on ne dépense pas, et donc on peut voyager plus longtemps et découvrir plus. Mais aussi, c'est vraiment le principal, c'est de rencontrer les gens, d'être plus proche d'eux.
Marion?
Et sur ce petit point économique, petit topo économique, c'est vrai qu'à partir du moment où on est client, que ce soit dans un bus, dans un hôtel, ou, ben, on n'a pas le même rapport avec les gens. On a auto-stoppé des bus et on ne voyageait pas avec les gens, mais on voyageait avec les chauffeurs. Et du coup, le rapport n'est pas du tout le même. Et quand on squatte un hôtel ou quand on demande de l'hébergement à quelqu'un, et ben c'est le même principe. En fait, on n'est plus client et on est invité, donc presque ami, enfin pas encore, mais ami en devenir, et ça change le rapport aux gens. Et c'est ça qui est intéressant. Effectivement, ça économise de l'argent, mais c'est pas le but principal. Et ça permet aussi de voyager plus longtemps puisqu'on a plus de ressources. Donc il y a plein d'aspects, c'est pas seulement économique, quoi.
Intéressant. Moment de grâce, on y a eu droit. Moment de galère.
C'est un gros moment de galère, mais on en rigole à chaque fois qu'on en parle. On s'est retrouvé à faire du stop en Patagonie argentine sur la route 40. Et en l'occurrence, on a fait du stop avec deux Chiliens qui étaient très gentils, qui avaient un pick-up, mais qui ne nous ont pas accepté à l'intérieur de leur pick-up, qui nous ont foutu dans la plateforme de derrière, ce qu'on adorait faire parce que c'est quand même très agréable. En France, on n'a pas le droit, donc c'est très agréable d'être à l'extérieur, à l'arrière d'un pick-up avec le soleil et tout. Mais là, en l'occurrence, le pick-up était couvert et il pleuvait. Donc c'était un peu moins fun. On a fait plus de 1000 bornes en 2 jours à l'arrière. On était 3 parce qu'il y avait un copain avec nous. Et on avait mal au cul. Ça fuyait, la pluie rentrait à l'intérieur. On était trempés, on avait froid. Et les mecs ne pouvaient pas nous entendre puisqu'ils étaient dans le pick-up. Mais à chaque fois, on en rit parce que c'était tellement ridicule. Enfin, on a fait.
Pourquoi pas changer de véhicule alors? T'as profité d'un arrêt pour te dire bon, bah stop, on fait un break là parce qu'on a vraiment marre du pick-up et on prend le véhicule prochain?
On n'avait pas vraiment de raison d'aller dans une autre voiture, c'est juste du confort. Le confort, on n'est pas venu là pour être dans le confort, sinon on aurait pris des hôtels et des bus. Voilà. Donc encore une fois, ça fait partie des galères, ça fait partie du quotidien qu'on aime bien finalement. Si c'était tout rose à chaque fois, ça serait moins fun, quoi. Nous, on aime bien galérer, et puis maintenant, on a des histoires comme ça à raconter.
En tout cas, ce que je trouve superbe et beau dans votre expérience, c'est que vous aviez une idée, partir en Amérique, faire du stop, et vous l'avez fait. Et ça, c'est beau parce que c'est possible.
Bien sûr, c'est possible. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend des priorités de chacun. Si on veut le faire, on peut le faire, qu'on ait des enfants. Ah, maintenant, j'ai des enfants, je peux pas partir. Mais nous, on a rencontré beaucoup de familles qui voyageaient, des couples avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants. On a rencontré des gens qui voyageaient même à 60 ans, 65 ans. Il y a tout sur la route. Et quand on veut, on peut. Après, il y a peut-être d'autres problèmes, je comprends, qui puissent empêcher les gens de partir, mais l'argent, nous, on n'en a pas dépensé beaucoup. Si on accepte de se galérer un peu et de se passer un peu de confort, on peut partir sans beaucoup d'argent. Oui,
c'est une question aussi qui, oui, ça m'intéresse. C'est des gens, combien ça coûte de faire ça pendant 2 ans? Le budget sur 2 années de stop sur la route?
On parle hors billet d'avion parce qu'on parle vraiment le voyage qui s'est déroulé. Nous a coûté 6 000 euros chacune pour 2 ans. On a mis 4 ans en plus, donc c'est faisable d'économiser 6000 euros avec, on faisait un petit effort par-ci par-là, c'est pas non plus un budget dément. Et voilà, pour 2 ans, ça, on s'est bien débrouillé.
Amélie Marion, merci. Le livre Jusqu'au bout de la terre, on trouve votre blog comment ?
Bah, le plus simple, c'est d'aller voir notre page Facebook Jusqu'au bout de la terre. On met les infos. On a un site internet et on le transforme en blog. Il s'appellera aussi Jusqu'au bout de la terre. Voilà, donc il suffit de le chercher ou nos noms, Amélie et Marion Lorrain, ou Jusqu'au bout de la terre, et on le trouve.
Merci à tous les deux.
Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.